voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Metin Arditi. Ce soir, de la Turquie à la Suisse, un enfant aux origines multiples.
Bonjour Metin Arditi.
Bonjour.
Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir toute la semaine, Metin Arditi. Vous êtes un écrivain d'origine turque, né à Ankara, mais vous vivez à Genève, en Suisse, et vous avez donc la double nationalité turque et suisse. Et vous écrivez en français. Vous êtes un auteur connu, une vingtaine de livres, des essais, des romans, beaucoup de prix, beaucoup de succès, notamment avec le Turketo, Prince d'Orchestre, et puis pour ma part, je rajouterai Juliette dans son bain et la fille des Louganis que j'aime beaucoup, mais enfin, voilà, je me fais un petit peu plaisir en disant ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais vous n'êtes pas qu'auteur. Vous avez eu une vie avant de commencer à écrire, puisque vous avez eu une longue carrière d'homme d'affaires après une formation d'ingénieur physicien. Tout cela est très intriguant. On se demande déjà qui se cache derrière ce personnage, qui par ailleurs a soutenu des institutions musicales en Suisse, dont le fameux orchestre de la Suisse romande que vous avez présidé durant une quinzaine d'années. Metin Arditi, vous êtes un homme très complet. Un homme de plume et un homme d'action. Un homme de culture. Et si l'on rajoute à ces qualités votre engagement en faveur de la paix au Proche-Orient, vous êtes d'ailleurs ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, on voit que la palette est complète. Metin Arditi, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et donc, pendant toute cette semaine, on va essayer de vous comprendre, de voir qui vous êtes, et vous allez nous parler de vous, et nous dire comment vous arrivez à concilier toutes ces activités. 5 émissions donc que nous allons vous consacrer, et la première à votre identité géographique. Qui êtes-vous, Metin Arditi? Un Turc, un Suisse, un Français? Alors on va commencer par la Turquie. Qu'est-ce que c'est la Turquie pour vous?
Mon pays natal.
Oui.
Ça, c'est un lien qui est indestructible. Je ne naîtrai jamais ailleurs qu'en Turquie. Et quand je me retrouve en Turquie, j'ai beau avoir pratiquement plus de liens, très peu de liens avec le pays, quelque chose se passe.
Votre famille était turque ?
Ma famille était d'origine ottomane, c'est-à-dire du côté de mon père. Il venait de Roustchouk, qui aujourd'hui s'appelle Roussé, qui est en Bulgarie, mais qui faisait partie de l'Empire ottoman à l'époque de la naissance de mon grand-père. La famille de ma mère venait d'Ankara, où je suis né. Et j'ai grandi à Istanbul. Je suis né à Ankara, mais j'ai grandi à Istanbul. Donc, à l'évidence, je me retrouve à Istanbul et j'écoute les bruits de la rue. Je crois que c'est la chose qui me prend le plus l'âme, ces bruits. Et ce lien est fort.
Et vous parlez turc encore aujourd'hui ?
Assez mal, mais je me débrouille. Après 3 jours à Istanbul, ça va.
Vous avez de la famille encore là-bas ?
Non, très peu. Et de toute façon, je n'ai pas grandi en Turquie. Vous voyez, mes parents m'ont mis en Suisse dans un internat lorsque j'avais 7 ans. Et je ne suis plus retourné en Turquie pendant des années. Donc, je n'ai pas grandi en Turquie. J'ai quelques cousins, mais que je ne connais pas.
Voilà, donc c'est la terre natale.
C'est la terre natale.
C'est la terre natale.
Ce n'est pas un attachement particulier sur le plan national. Bon, j'ai grandi en Suisse, j'ai un lien avec la Suisse, mais évidemment aussi il y a la question de la langue, et surtout que depuis, vous y avez fait référence indirectement, depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, j'écris, et il est évident que la langue est mon pays, la langue française c'est mon pays.
Oui, alors, c'est ça. Vous n'avez jamais écrit en turc ?
Non, j'en serais bien incapable. J'aurais pu écrire à un moment donné en anglais. Je parlais parfaitement l'anglais. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, donc j'avais un anglais d'américain, écrit, lu et tout. Mais ma langue, c'est le français, et je dirais que c'est au fond mon vrai pays. Il y a... Et je ne cherche pas à Je ne cherche pas à établir d'autres liens. Ça m'est étranger. Cette idée m'est étrangère. Vous savez, il y a cette phrase d'un moine saxon du XIIIe siècle qui était Uxin Victor, qui a écrit beaucoup de choses de qualité. Et Uxin Victor a dit « Lorsqu'un homme dans son pays se sent à l'aise, cet homme est un naïf. Lorsqu'un homme dans son pays et partout ailleurs se sent à l'aise, cet homme est fort. Lorsqu'un homme dans son pays et partout ailleurs se sent étranger, cet homme est parfait. » Et ça, je dirais que c'est mon idéal.
Vous tendez à la perfection parce que vous êtes étranger partout, même en Suisse. On va parler de la Suisse parce que vous y êtes arrivé à 7 ans.
Oui.
Mais vous vous sentez étranger partout?
Alors, il m'arrive de ne pas me sentir étranger et je pense qu'à ce moment-là, je commets une erreur, ou plutôt j'ai une faiblesse. Parce que le fait de se sentir étranger est en quelque sorte une obligation de découverte. Une obligation d'étonnement. Ça, c'est très important. C'est vraiment la plus belle chose de la vie, l'étonnement.
C'est sûr.
Voilà. Mais alors, il y a quelque chose, il y a une petite facture qui vient avec, n'est-ce pas?
Il y a un
prix à payer.
Il y a un prix à payer.
Et ce prix à payer, c'est que on ne se sent pas véritablement complètement chez soi. Moi, je recherche cette facture.
Oui.
Cette facture et cette fracture.
Mais on ne se sent pas complètement chez soi. Bon, évidemment, c'est la question de l'exil. Et dans le livre que vous avez écrit, un des livres que vous avez écrit sur la Suisse, que vous avez dédié à Elias Sambar, vous lui dites, Elias Sambar, qui lui aussi connaît la douceur des terres d'accueil.
Oui.
C'est une jolie phrase. Effectivement, vous avez ça en commun avec ce poète palestinien qui vit aussi à Paris d'ailleurs, qui est aussi à l'UNESCO et qui est un de vos amis, je
Absolument.
Le sais. Dans le dictionnaire Amoureux de la Suisse, vous en parlez beaucoup. Mais alors, comment on fait? Parce que c'est effectivement une richesse que vous avez dit dans la belle phrase de Saint-Victor, mais c'est aussi un traumatisme. Le traumatisme. Bon, le premier traumatisme que vous ayez connu sur ce plan-là, c'est l'arrivée en Suisse, c'est l'internat à 7 ans.
Oui.
C'est vrai que interne à 7 ans, la question de l'internat parcourt tous vos livres.
Oui.
La plupart de vos livres, on trouve cette question qui est au cœur de peut-être de votre goût, ou en tout cas incitation à écrire. Mais alors, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes né à Ankara, vous arrivez en Suisse à 7 ans, et là vous êtes interne 63. De 52
à 63.
À 63, de 52 à 63, oui, vous êtes à l'école nouvelle.
Voilà.
C'est ça. En 63, vous êtes à l'école polytechnique fédérale. Oui. On parlera de votre carrière scientifique demain. Mais en ce qui concerne ces années déterminantes pour la formation de l'individu, vous êtes à Pau d'Aix, je crois.
Oui.
Dans une petite ville suisse, vous qui venez d'Ankara, Et vous découvrez la Suisse. Et la Suisse devient votre patrie, parce que vous disiez tout à l'heure, ma patrie, c'est la langue française, mais ça a quand même été aussi, après la Turquie, ça a été la Suisse.
Absolument, c'était le lieu d'accueil, l'école.
D'ailleurs, vous êtes citoyen suisse.
Bien entendu, oui, oui. L'école était aussi un lieu d'accueil, l'école était ma maison. Je ne suis pas rentré en Turquie plus d'une fois, et ça a duré une semaine, pendant ces 11 années. Donc, je passais mes vacances de Noël, de Pâques, et un des deux mois des vacances d'été en internat.
Mais vos amis étaient suisses ou c'était une école internationale?
Non, c'était une école internationale. Il y avait aussi des Suisses. La plupart des internes rentraient chez eux pendant les fêtes. Et nous étions une poignée que j'ai appelé dans un de mes textes les internes profonds. C'était vraiment au fond de l'internat. C'était, et nous étions une poignée à nous retrouver à Noël, à Pâques. Et...
C'était votre vie complètement. Mais alors, se retrouver en internat à 7 ans, on parlait tout à l'heure de la douceur d'être étranger partout, mais ça a été une souffrance. Enfin, j'en parle d'emblée parce que c'est tellement présent dans vos livres, c'est tellement fort tout ce que vous écrivez sur la vie en internat, y compris dans ce très beau livre que vous avez dédié à votre père, qu'on se rend compte que ça a été une expérience
Oui, je pense
dure,
que c'est présent dans chaque page, même quand je ne parle pas d'internat, je parle de solitude. Et la solitude est certainement le thème qui est partout, je veux dire vraiment dans chaque ligne. Il faut dire que sur le moment, lorsqu'on a 7 ans, qu'on est mis comme ça dans un internat, qu'on nous dit, tu sais, c'est pour ton bien, on le croit. Et puis on trouve des copains, on n'a pas une Weltanschauung, n'est-ce pas ? On ne sait pas ce que c'est que le monde, on ne sait pas qu'il y a des enfants qui rentrent chez eux tous les soirs, ou en tout cas on l'oublie très très vite. Et le monde, la norme, devient ce que nous vivons. Voilà. Donc, le problème de la douleur ne se pose pas en termes très clairs. On peut certainement parler de dégâts, ça c'est certain. Pas nécessairement de douleur, parce qu'on n'en est pas conscient. Et on en prend conscience beaucoup plus tard.
Vous m'avez dit une phrase très belle à ce sujet, en me disant que c'était une souffrance non détectable.
Absolument.
Ce qui n'est pas le cas quand on arrive en internat à 11 ou 12 ans. Ces 4 ans sont aussi déterminants.
Absolument. Et moi, je me souviens très bien des garçons qui rentraient à 12 ou 14 ans. Et le soir, on se moquait d'eux parce qu'ils pleuraient dans leur lit. Ça nous semblait complètement farfelu. Pourquoi pleurer ? Pour nous, c'était une évidence. C'était comme ça. C'était la norme.
Oui. On a vu très rapidement la Turquie. Là, on parle de l'internat, mais l'internat, d'une certaine façon, c'est un monde en soi.
Absolument.
C'est pas la Suisse, l'internat.
Non.
L'internat,
non,
c'est.
Je vais vous dire.
C'est pas une prison, mais enfin, c'est un univers clos, en tout cas.
Oui, c'est pas la Suisse avec deux réserves. La première, c'est que c'était un internat qui était au bord du lac, dans un petit bourg, le village de Podé. Entouré de vignes. Maintenant, il n'y en a plus. Mais à l'époque, il y en avait. Il y avait les hommes du village qui pressaient le raisin au pied, comme dans le temps. Et donc, l'environnement naturel, la nature, a joué un rôle très, très important dans ma vie. C'était une façon de retrouver des liens affectifs avec la nature, le lac, le bord du lac. Et puis, c'était aussi, je vous l'ai dit, on passait pratiquement toutes les vacances à l'école, et c'était aussi une époque où il n'y avait pas du tout les mêmes loisirs qu'aujourd'hui, et beaucoup des loisirs consistaient à aller en montagne, à faire des marches de montagne. Et donc, le rapport à la nature que j'ai eu la chance d'avoir avec la Suisse, ça, c'était quelque chose de très, très fort.
Et ça a commencé à cet âge-là.
Ah oui, ça a commencé très tôt. Oui, oui. Et c'était aussi des occasions d'exigence, n'est-ce pas ? C'est pas simple. Et puis, les Suisses ont une tradition, quand même, de montagne, d'effort. Pour nous qui venions d'Orient, il fallait s'adapter. Enfin, ça faisait partie du tout et c'était très, très bien. C'était très structurant. L'autre chose, c'est que il y avait un certain nombre de professeurs qui étaient suisses et qui étaient en quelque sorte porteurs des valeurs de la Suisse. Et puis, il y avait quand même quelques camarades qui étaient des locaux, qui étaient de Genève ou de Lausanne, et puis aussi quelques externes. Mais les externes, nous ne les fréquentions pas. Il ne faisait pas partie vraiment de l'internat.
Alors la Suisse, bon, finalement, après, vous nous expliquez très bien comment peu à peu elle est apparue dans cet univers d'internat, mais la Suisse, elle devient votre pays. Alors, je disais tout à l'heure que dans tous vos livres, dans Loin des bras, dans la pension Marguerite, on trouve l'internat à chaque fois, et puis on trouve la Suisse. Il y a énormément de vos romans où il y a un bout de Suisse quelque part.
Oui.
Il y a même dans La fille des Louganis qui se passe en
Ah
Grèce,
oui, bien
et à la
sûr, il y a
Suisse,
beaucoup de Genève,
il y a beaucoup de Genève, etc. Bah, Genève, j'ai noté une citation d'ailleurs, je crois qu'elle vient de ce livre. C'est une ville où le bonheur est bien réparti. Il y en a un peu pour tout le monde, c'est tranquille, c'est doux.
voilà.
Alors, c'est pour ça que vous aimez la Suisse, que vous y êtes installé, vous vivez à
Ah
Genève?
non, c'était une suite de circonstances. Je n'ai jamais cherché ce
Oui,
genre
mais vous vous y
de
sentez bien, vous.
moyenne.
Oui, enfin, vous avez écrit un dictionnaire amoureux de la Suisse, qui est un très gros livre, dans la collection, c'est des dictionnaires amoureux, qui a eu beaucoup de succès en Suisse. Et alors, vous êtes dithyrambique, en dehors de la référence à Elias Sambard. Vous le dites dans l'introduction, enfin, si vous me permettez de vous citer, après mes études et quelques stages, je me suis installé à Genève, ville superbe que j'aime tant. Dire que ce pays m'a beaucoup donné serait peu, il m'a comblé, comment le remercier? C'est ainsi que je veux, que je dois aimer la Suisse si je veux m'acquitter de ma dette. Aime, mais avec distance. Alors,
Voilà. Alors, ça s'est passé comme ça, mon installation à Genève. Moi, j'ai grandi
et
à
votre goût pour la
Lausanne.
Suisse?
Et j'ai grandi à Lausanne. J'ai fait mes études à Lausanne. Après, je suis parti aux États-Unis. Je fais d'autres études. J'étais engagé pendant 2 années dans une maison américaine, McKinsey. J'étais à
Oui.
Paris. Et puis, j'avais fait mes études à Stanford, donc au cœur de la Silicon Valley. Lorsque je me suis installé à mon compte, l'idée était de retourner en Californie et de passer des accords avec des petites maisons de technologie avancée, des petites maisons à haut potentiel, pour pouvoir ensuite les représenter en Europe. Et Genève me semblait être la ville idéale. Il y avait un aéroport important au centre de l'Europe. Je ne connaissais personne à Genève.
Oui, c'est lié à vos affaires, en fait,
Absolument.
aussi. Mais
Absolument.
enfin, vous dites aussi dans un autre livre, la Suisse est comme cette très belle femme, elle a tout pour qu'on tombe amoureux
Dans
d'elle.
le même, oui, dans
Dans
le
le dictionnaire
dictionnaire
amoureux, ah bah
amoureux.
oui, le dictionnaire amoureux de la Suisse, c'est une mine, hein, quand on cherche à savoir pourquoi vous vivez en Suisse, pourquoi vous êtes toujours Suisse
Mais
après
vous
avoir été
voyez,
turc.
une femme dont on tombe amoureux, en général, on la découvre petit à petit. On ne la déshabille pas d'un coup. Et
Ça peut arriver, mais enfin, c'est l'amour, c'est peut-être autre chose, oui.
voilà. Avec la Suisse, c'était ça. C'est-à-dire que mes premières années, c'était la nature. Et ça, c'était très fort. Et puis ensuite, ensuite, il y a eu l'école polytechnique. Ça, c'était aussi une relation très importante. J'ai gardé des liens. Je suis rentré à l'école polytechnique en 63, à 18 ans.
L'école polytechnique de
De
Lausanne, hein.
Lausanne,
Pour l'auditeur français, c'est
voilà.
pas l'école polytechnique
Non,
de
c'est pas
France.
X. Et j'ai toujours des liens avec cette école. Je suis au conseil stratégique, j'y vais souvent. C'était une relation très importante, très très
Très
structurante pour
structurante.
moi.
Mais alors, on parlait d'amour, évidemment, c'est un thème aussi récurrent dans tous vos livres, on y reviendra. Mais justement, vous êtes marié. Avec, pour compliquer un peu le jeu, avec une femme grecque.
Oui.
Alors, et vous vivez, vous avez une maison à Spetse, dans une île au sud du Péloponnèse, et votre femme est grecque, donc. Et vous parlez de la Grèce aussi beaucoup dans vos livres, enfin elle
Oui.
revient, moins que la Suisse, mais enfin quand même. Vous avez consacré un très joli livre, La fille des Louganis,
Oui,
qui se passe à Spetse,
l'enfant qui mesurait le
L'enfant qui
monde,
mesurait le monde,
aussi.
oui aussi, donc
Et puis d'autres
voilà.
scènes dans d'autres
Mais alors
livres
la Grèce,
aussi.
ça tient. C'est encore une autre partie de vous-même. C'est parce que c'est équidistant entre la Suisse et la
Ah non,
Turquie.
c'est pas du tout. Et c'est beaucoup plus près de
C'est
la
plus près de la
Turquie.
Turquie
Et ça,
que
ils
de
le
la Suisse.
savent, les Grecs.
Ça, c'est
C'est près de
sûr.
la Turquie.
Alors c'est un goût pour la culture classique.
Alors, il y a tout. Il y a la famille, il y a ma femme, il y a mes enfants qui sont grecophones tous, mes petits-enfants, les 7 qui sont grécophones, tous, 2 habitent la Grèce, mais 5 autres habitent la Suisse, ils parlent tous un grec parfait. Et puis, il y a bien évidemment le bonheur d'avoir, largement à travers ma femme, compris la pensée grecque. Elle s'exprime de diverses manières, hein, par le théâtre, par la poésie, par la sculpture, par l'architecture, mais il y a une pensée grecque qui est d'une linéarité, d'une beauté, d'une transparence qui sont inégalées aujourd'hui. Alors, quand je suis en Grèce, c'est évidemment une sorte de retour à beaucoup de choses. Il y a la famille, il y a la nature, il y a la lumière. Pendant les fêtes de Pâques, j'étais en Grèce, à Spetses, et d'où je viens du reste, j'en arrive. Et la lumière qu'il y avait là-bas était tout simplement splendide. Donc il y a tout cela.
Donc, la Turquie, l'internat, la Suisse, la Grèce, vous allez donc souvent, c'est un refuge aussi pour vous. Et puis, on en arrive à la France. Alors la France, c'est assez étonnant parce que, vous me direz si je me trompe, hein, vous en parlez pas tellement dans vos livres, sauf peut-être dans le livre sur La Fontaine, qui est votre premier livre, où vous avez des propos sur la France, sur les Français, qui sont assez d'ailleurs à la fois attachants et un peu ironiques, disons. Et puis, il y a une petite allusion au début de Victoria Hall, la rencontre entre Proust et Kafka, qui se passe à la Gare du Nord, enfin bon. Mais vous écrivez assez peu sur la France. Géographiquement, vos romans se passent plutôt ailleurs. En revanche, vous écrivez en français.
Oui.
Et puis, vous venez quand même très souvent à Paris. Vous êtes, j'ai l'impression, très, très présent dans la capitale, dans la vie française. Alors vous dites au début de La Fontaine, je crois que c'est la première phrase d'ailleurs, plus d'un persan a déjà jeté sur la France un regard admiratif. Bon, alors vous vous sentez un peu persan et vous jetez un regard admiratif, mais pourquoi écrire en français et pourquoi la France ?
Alors, bon, c'est deux choses bien différentes. J'ai écrit ce
est-ce
texte.
Est-ce que c'est si différent, c'est quand même la française et la France, quoi.
Non, pas seulement.
Mon rapport
à la langue est une chose et mon rapport à l'écriture en est une autre.
Et le rapport au pays, là, ce qui m'intéresse dans cette première émission, c'est un peu de savoir cette diversité de pays.
Le rapport au pays passe par la langue. Ça, c'est certain. Je vais vous dire.
Alors, pourquoi le français et pas l'anglais ?
Alors, en Turquie, dans ma famille, on entendait à la maison le turc, le ladino, l'allemand, le grec, mais entre nous, nous parlions français. C'était une sorte de miracle. Mes deux parents avaient quitté l'école à 14 ans, ils venaient de familles modestes, l'un et l'autre, mais nous parlions un français parfait. Nous parlions couramment le français à la maison.
Et, pas turc.
Pratiquement jamais, très peu avec ma mère, jamais avec mon père. Et donc, moi, j'ai grandi, non pas seulement avec la langue française, mais avec l'idée que la norme, la culture, le bon goût, la justice, c'était la France.
Le droit aussi.
Oui. C'était la France. On ne peut pas imaginer à quel point la France était la référence, pas seulement linguistique ou culturelle, mais morale. Morale. Et ce qui m'a évidemment marqué lorsque j'ai eu 10 ans, que ma mère m'a amené à Paris pendant une semaine, et je peux vous décrire ce qui s'est passé pendant cette semaine, pratiquement, presque heure par heure, tellement j'étais ébloui. Et là, j'ai vu à quel point, aux yeux de ma mère, ce qui comptait pour un enfant, c'était qu'il soit cultivé. Et la culture, c'était la France. Alors, c'était pas nécessairement Proust, la culture française. Pour ma mère, c'était aussi l'opérette, par exemple.
C'était Offenbach.
Non, pas Offenbach, voyons. Lopez, comment il s'appelait, Francis Lopez.
Ah, oui, oui, oui.
Tino Rossi, qui chantait Méditerranée, ou Luis Mariano, qui chantait Les Chevaliers du Ciel. C'était le théâtre, c'était ouais. Guitry, elle adorait Guitry.
Le Châtelet, la belle auberge du Cheval Blanc.
Absolument, mais aussi le théâtre, disons, plus classique, Molière, qu'on avait été voir aux Français, où elle nous avait amené, ma sœur et moi, cet été-là, au théâtre de la Ville, où Pierre Dux jouait Cyrano. Inoubliable, inoubliable. Donc, mon lien à la langue date d'Istanbul, mais ensuite mon lien au pays date de ce spectacle qui consistait pour moi non seulement à voir Paris, mais à voir ma mère regarder Paris.
C'est étonnant parce que, si je peux me permettre de vous interrompre, c'est que vous parlez beaucoup de votre père pendant dans vos livres, mais assez peu de votre mère. Et là, vous faites une référence très précise sur le fait que votre mère vous a introduit dans la culture française.
Elle m'a dit combien c'était beau pour elle. Et comme c'était une personne de grande élégance et de très bon goût, la culture française est devenue ma norme. Et ça date de cette année-là, de l'année de mes 10 ans.
C'est magnifique et c'est un bel hommage aussi pour la culture française. Vous en parlez beaucoup dans vos textes. En citant un des vers, ce qui est pour vous un des vers les plus lumineux de la langue française, « L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour ».
Oui.
C'est de La Fontaine.
Oui, la fable du héron.
Oui, on en parlera dans une prochaine émission. Métinarditi, merci pour cette première introduction. Demain, nous parlerons de votre activité professionnelle et de votre formation de scientifique. Encore une autre facette de Métinarditi.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Métinarditi. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.